France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Elle est plus restée dans notre mémoire, dans la mythologie contemporaine, comme comédienne, tragédienne, la première véritable grande vedette connue dans le monde entier. Elle interpréta des rôles de femmes, on s'en doute, mais aussi des rôles masculins, on le sait. Et donc, ainsi que nous l'apprenait ou nous le rappelait l'émission d'Hubert Join, Relecture, elle avait également écrit des mémoires, des romans, des pièces, des poèmes. Sa devise, quand même. Relecture, Sarah Bernard, première diffusion sur France Culture, le 20 mars 1981.
Relecture, une émission d'Hubert Join réalisée par Anne Lemaître. Aujourd'hui, Sarah Bernard, avec la participation de Claude Rich et Gilbert Sigaud. Texte lu par Catherine Sellers.
Ma mère adorait voyager. Elle allait d'Espagne en Angleterre, de Londres à Paris, de Paris à Berlin, de là à Christiania, puis revenait m'embrasser et repartait pour la Hollande, son pays natal. Elle envoyait à ma nourrice des vêtements pour elle et des gâteaux pour moi. Elle écrivait à une de mes tantes « Veille sur la petite Sarah, je reviendrai dans un mois ». Elle écrivait à une autre de ses sœurs un mois après « Va voir l'enfant chez sa nourrice ». Je reviens dans 15 jours. Ma mère avait 19 ans. J'en avais 3. Et mes tantes avaient l'une 17 ans, l'autre 20 ans. Une autre avait 15 ans. Et l'aînée 28 ans, mais cette dernière habitait la Martinique et avait déjà 6 enfants. Ma grand-mère était aveugle. Mon grand-père était mort. Et mon père était en Chine depuis 2 ans. Pourquoi, je n'en sais rien. Mes jeunes tantes promettaient de venir me voir et ne tenaient guère leurs paroles. Ma nourrice était bretonne et habitait près de Quimperlé une petite maison blanche au toit de chaume, très bas, sur lequel poussaient des giroflées sauvages. C'est la première fleur qui ait charmé mes yeux d'enfant. Et je l'ai toujours adorée, cette fleur aux pétales faits de soleil couchant, aux feuilles drues et tristes. C'est loin, la Bretagne. Même à notre époque de vélocité, c'était alors le bout du monde. Heureusement, ma nourrice était, paraît-il, une brave femme. Et son enfant étant mort, je restais seule à être aimée. Mais elle aimait comme aiment les gens pauvres quand ils ont le temps. Un jour, l'homme étant malade, elle était allée au champ pour aider à la récolte des pommes de terre. Le sol trop mouillé les pourrissait, le travail pressait. Elle me confia à la garde de son mari, étendue sur sa couchette bretonne, les reins cloués par un lumbago. La brave femme m'avait installée dans ma chaise haute. Elle eut soin de mettre la cheville de bois qui tenait devant moi la tablette étroite sur laquelle elle posa de menus jouets. Elle jeta un sarment dans la cheminée et me dit en breton, jusqu'à l'âge de 4 ans, je n'ai compris que le breton, Tu seras sage, fleur de lait. C'était le seul nom auquel je répondais alors. La brave femme partie, je m'efforçais de retirer la cheville de bois mise avec tant de soin par ma pauvre nourrice. Ayant enfin réussi, je poussai le petit rempart, croyant, pauvre de moi, m'élancer sur le sol. Et je tombai dans le feu qui crépitait joyeusement. Les cris de mon père nourricier, qui ne pouvait bouger, attirèrent les voisins. On me jeta toute fumante dans un grand seau de lait qui venait d'être tiré. Mes tantes, prévenues, avertirent ma mère. Et pendant 4 jours, cette paisible contrée fut labourée par les diligences qui se succédaient. Mes tantes arrivaient de partout. Et ma mère, affolée, accourait de Bruxelles avec le baron Larrey et un de ses amis, jeune médecin qui commençait à devenir célèbre. Plus un interne amené par le baron Larrey. On m'a conté depuis que rien n'était plus douloureux et charmant que le désespoir de ma mère. Le médecin approuva le masque de beurre qu'on me renouvelait toutes les heures. Je le revis souvent depuis le cher baron Larrey, et on le retrouvera quelquefois dans ma vie. Il me contait d'une façon charmante l'amour de ces braves gens pour fleurs de lait. Et il ne pouvait s'empêcher de rire à tant de beurre. Il y en avait, disait-il, partout. Sur les couchettes, sur les armoires, sur les chaises, sur les tables, pendues à des clous dans des vessies. Tous les voisins apportaient du beurre pour faire des masques à fleurs de lait. Maman, belle à ravir, semblable à une madone, avec ses cheveux d'or et ses yeux frangés de cils, si longs qu'ils faisaient ombre sur ses joues quand elle baissait ses paupières, donnait de l'or à tout le monde. Elle aurait donné sa chevelure d'or, ses doigts blancs et fuselés, ses pieds d'enfant, sa vie, pour sauver cet enfant dont elle se souciait si peu 8 jours avant. Et elle était aussi sincère dans son désespoir et son amour que dans son inconscient oubli. Le baron Larrey repartit pour Paris, laissant ma mère, ma tante Rosine et l'interne près de moi.
Cette petite fille, dont nous venons d'entendre les souvenirs, les premiers souvenirs d'enfant, eh bien, elle se nomme Sarah Bernard, et c'est à Sarah Bernard que nous allons consacrer la présente émission de relecture. Pourquoi ? Ben, premièrement, parce qu'il y a un événement de librairie, la réédition de Ma double vie, c'est-à-dire des mémoires de Sarah Bernard en 2 volumes aux éditions des Femmes. C'est une édition préfacée, annotée, établie par Claudine Herrmann. Je n'ai pas très bien compris pourquoi ça s'appelle une édition féministe. Parce que, je passe sur ceci. Parce que ce qui est quand même plus important, c'est Sarah Bernard. Sarah Bernard est d'abord, je crois, un mythe, une grande image du théâtre, bien sûr, mais que nous n'avons pas eu ni les uns ni les autres l'occasion de la voir. Nous devons faire confiance aux contemporains, qu'il existe sur elle finalement assez peu de documents, en tout cas pris au moment de sa grandeur ou de sa splendeur. Il reste d'elle quelques écrits, elle a écrit plusieurs livres, elle a écrit des pièces de théâtre qui ne sont pas très bonnes, dont Adrienne le Couvreur, qui a fait un triomphe, au contraire. Elle a écrit des romans, comme La petite idole, Jolie sosie, elle a écrit des récits, comme Histoire d'une chaise, elle a écrit également une nouvelle, qui a pour titre Dans les nuages, mais elle est surtout l'auteur de ses mémoires. Est-ce que quelqu'un d'autre y a mis la main? Est-ce que quelqu'un de ses amis l'a aidé? Ça, nous ne le savons pas, et je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance. Tout ce qu'on peut dire, on le saurait. Oui, vous avez raison, Gilbert Sigaud, mais de toute manière, c'est un livre qui se lit très, très aisément, enfin, avec une sorte de fraîcheur. Et rester témoin encore, par exemple, ce petit souvenir d'enfant.
Je n'avais aucun goût pour l'étude, sauf pour la géographie et le dessin. L'arithmétique me rendait folle, l'orthographe m'assommait et j'avais un profond mépris pour le piano. J'étais restée timide et perdais la tête quand on m'interrogeait à l'improviste. J'avais la passion des bêtes et je promenais avec moi dans des petits cartons ou des cages que je fabriquais des couleuvres. Nos bois en étaient peuplés. Des cri-cris sur des feuilles de lys. Des lézards. qui avait presque toujours la queue cassée, parce que pour voir s'il mangeait, je soulevais le couvercle de la boîte un tout petit peu, ce que voyant mes lézards se précipitaient vers l'ouverture, je refermais très vite, rouge et surprise de tant d'aplomb, et crac, soit à droite, soit à gauche, il y avait une queue de prise. Et je me désolais des heures. Et pendant que la sœur nous expliquait, faisant des signes sur le tableau, le système métrique, je pensais, la queue de mon lézard dans la main, au moyen de la lui recoller. J'avais des toques-marteaux dans une petite boîte et 5 araignées dans une cage que m'avait fabriquée le père Larcher avec de la toile métallique. Méchamment, je donnais des mouches à mes araignées qui, grasses et bien nourries, travaillaient à faire leur toile. Et bien souvent, pendant la récréation, la cage sur un banc ou un tronc d'arbre, nous restions 10, 12 fillettes groupées autour de cette cage à regarder l'étonnant travail de ces petites bêtes. Puis, importante et fière, quand j'apprenais qu'une compagne s'était coupée, je me rendais près d'elle. « Viens, je vais t'envelopper ton doigt, j'ai de la toile d'araignée toute fraîche. » Et armée d'un petit bâton tout mince, je prenais la toile d'araignée que j'enroulais gravement autour du doigt blessé. « Et maintenant, mesdames araignées, il faut recommencer votre travail. » Et mesdames araignées recommençaient, actives et minutieuses. J'étais une petite autorité. On me prenait pour arbitre dans les questions à trancher. On me faisait des commandes pour les trousseaux des poupées en papier. À cette époque, faire le grand manteau d'hermine avec la palatine et le manchon était un jeu pour moi. Et cela remplissait d'admiration toutes mes camarades. Je faisais payer mes trousseaux, selon leur importance, 2 crayons, 5 plumes tête de mort, 2 feuilles de papier blanc. Enfin, j'étais devenue une personnalité, et cela suffisait à mon orgueil d'enfant. Je n'apprenais rien. Je n'avais jamais la croix. Et je ne fus qu'une fois au tableau d'honneur. Pas comme une élève studieuse, mais pour acte de courage. J'avais retiré de la grande mare une petite fille qui voulait attraper des grenouilles. La mare se trouvait dans le grand verger, du côté des enfants assistés. J'avais eu comme pénitence, pour je ne sais quel forfait, 2 jours de retraite chez les enfants pauvres. On croyait me punir, j'adorais cela. D'abord, on me regardait comme la demoiselle. Et je donnais des sous pour qu'on m'apporte en cachette de la cassonade, ce qui était facile aux petites externes. Nous étions à l'heure de la récréation. J'entendis des cris. Je me précipitais vers la mare d'où venaient les cris et je sautais dans l'eau sans réfléchir. Il y avait tellement de vases que nous nous embourbions. Seulement la fillette avait 4 ans, elle était petite, petite, et disparaissait sans cesse. Moi, j'avais plus de 10 ans. Enfin, je ne sais comment, j'arrivais à la sortir de là. Sa bouche, son nez, ses oreilles, ses yeux, tout était plein de vases. Il paraît qu'on fut longtemps avant de la ranimer. Quant à moi, on m'emporta claquant des dents, nerveuse et demi-pâmée. J'eus un gros accès de fièvre et ce fut Mère Sainte-Sophie qui voulut me veiller. Je l'entendis qui disait au médecin « Cette enfant, monsieur le docteur, est ce que nous avons de meilleur ici. Elle sera parfaite quand elle aura reçu le Saint-Crème. » Ces paroles me frappèrent tellement qu'à partir de ce jour, je devins mystique. Douée d'une imagination très vive et d'une extrême sensibilité, la légende chrétienne me prit l'esprit et le cœur. Le Fils de Dieu devint mon culte et la mère des 7 douleurs, mon idéal.
Maintenant, Gilbert Sigaud, j'aimerais bien que nous en venions à une approche de Sarah Bernhardt, si vous voulez, dans sa vie. Bon, nous savons qu'elle est d'une naissance, disons pour être pudique, illégitime. Nous ne savons pas très bien qui est son père, on a même parlé du duc de Morny. Ce qui est quand même pas mal. Il est vrai qu'elle a beaucoup été aidée, de toute manière, par le duc de Mordy, qui était un familier de sa mère. Sa mère, qui était une fort jolie femme, très prisée du tout Paris, de l'époque, enfin, de cette époque du Second Empire, disons, de ce qui va être le personnel du Second Empire. Et tout d'un coup, elle a cette vocation pour le théâtre. D'ailleurs, elle le dit très bien, elle dit qu'elle n'avait pas du tout la vocation du théâtre. Elle s'était tout d'un coup dit, voilà, je vais entrer au couvent, je vais être religieuse, n'est-ce pas? Tout d'un coup, elle est fascinée, elle est par le Christ. Elle devient mystique au couvent. Puis son père, car elle avait un père, bien sûr, on ne sait pas si c'est le vrai ou pas le vrai, mais enfin, il y avait un monsieur qui avait laissé de l'argent, une rente. Mais elle ne pouvait toucher cet argent qu'à condition de se marier. Alors évidemment, épouser le Christ n'était quand même pas encore par la...
C'était pas rentable encore.
Non, c'était pas tout à fait reconnu que l'Autriche par le... disons par la loi. Ça ne l'est peut-être toujours pas d'ailleurs. Et alors elle a dit, bon très bien, alors il faut me créer une situation et... Elle décide, ou plus exactement, on décide pour elle qu'après tout, le théâtre, ce ne serait pas si mal.
C'est curieux pour l'époque.
Oui, et cependant, ça se passe comme ça. Mais il faut effectivement bien voir dans quel milieu elle est. Et encore, effectivement, j'y reviens, le salon de la mer, et on y fréquente là les gens qui sont des habitués des coulisses et des gens qui, effectivement, vivent avec des théâtreuses, etc. Alors, vous savez, je pense encore qu'à cette époque-là, on peut dire que la vocation de théâtreuse, le mot ne vaut plus aujourd'hui, mais oui. Valait à l'époque, c'était quand même aussi l'entrée dans le demi-monde. Oui. Cela, c'est certain. Et alors, après nous allons y revenir, je veux encore lui laisser un temps de parole, à Sarah Bernard, c'est sa première audition.
Je commençais cependant à penser à ma nouvelle carrière. De tous côtés arrivaient pour moi des livres. Racine, Corneille, Molière, Casimir de Lavigne, etc., etc. Je les ouvrais, et n'y comprenant rien, je les refermais bien vite pour relire mon petit La Fontaine, que j'aimais passionnément. Je savais toutes ces fables. Et une de mes joies était de faire des paris avec mon parrain, ou Monsieur Médieu, l'érudit et insupportable ami. Je pariais qu'il ne reconnaîtrait pas toutes les fables si je les commençais par le dernier vers en remontant jusqu'au premier. Et je gagnais souvent. Un mot de ma tante arriva un jour, prévenant maman que Monsieur Aubert, alors directeur du conservatoire, nous attendrait le lendemain à 9h du matin. J'allais mettre le pied dans l'étrier. Maman m'envoya avec Madame Guérard. Monsieur Aubert, prévenu par le duc de Morny, nous reçut d'une façon très affable. Sa tête fine, aux cheveux blancs, à la face ivoirine, dans laquelle brûlaient deux magnifiques yeux noirs, son aspect grêle et distingué, la mélodie de sa voix, la célébrité de son nom, tout cela me causait une grande impression. J'osais à peine répondre à ses questions. Alors il me fit asseoir doucement près de lui. « Vous aimez beaucoup le théâtre ?»« Oh non, monsieur !» Cette réponse inattendue le stupéfia. Il leva ses lourdes paupières sur Madame Guérard qui répondit « Non, elle n'aime pas le théâtre, mais elle ne veut pas se marier. Et par ce fait, elle reste sans fortune, car son père ne lui a laissé que 100 000 francs qu'elle ne peut toucher que le jour de son mariage. Alors sa mère veut lui donner une carrière. Car Madame Bernard n'a qu'une rente viagère, assez belle, mais enfin ce n'est qu'une rente viagère et elle ne peut rien laisser à ses filles. » Dans ces conditions, elle voudrait que Sarah se créât une indépendance. Mais celle-ci préférerait entrer au couvent. Aubert dit lentement, « Ça, ce n'est pas une carrière indépendante, mon enfant. » « Quel âge a-t-elle ? » « Elle a 14 ans et demi, répondit Madame Guérard. « Non, m'écriai-je, je vais avoir 15 ans. » L'aimable vieillard se mit à sourire. « Dans 20 ans, me dit-il. » Vous tiendrez moins à la véracité des chiffres. Puis, jugeant la visite assez longue, il se leva. Il paraît, dit-il à mon petite dame, il paraît que la mère de cette jeune fille est d'une grande beauté. Oh, très jolie, reprit-elle. Vous lui exprimerez mes regrets de ne l'avoir point vue et mes remerciements pour s'être fait si galamment remplacer. Et il baisa la main de Madame Guérard, qui rougit légèrement. Cette conversation est telle qu'elle eut lieu, mot pour mot.
Bien, maintenant, Gilbert Sigaud, Sarah Bernard. Alors, le reste de sa carrière, si vous voulez bien.
Oui. Il y a plusieurs étapes dans sa carrière, et la vraie grande Sarah Bernard, celle que Lucien Guitry appelait Notre-Dame du théâtre, elle commence à être connue en 1880. C'est à ce moment-là qu'elle commence à acquérir la grande gloire. Elle a eu des débuts difficiles. Elle a fait le conservatoire, elle est entrée à la Comédie française, elle a quitté la Comédie française, elle a joué au gymnase, c'était en 63, vous voyez, elle avait, 44, elle avait 20 et quelques années, 25 ans. Ensuite, elle est passée à l'Odéon, et c'est à l'Odéon qu'elle a connu ses premiers triomphes entre 66 et un petit peu après la guerre de 70. Elle a connu des triomphes, mais elle n'était pas la grande Sarah. Et elle a joué à ce moment-là un peu de tout, c'est-à-dire aussi bien du classique. Par classique, entendons Marivaux, elle a joué Sylvia dans Le jeu de l'amour et du hasard. Elle a joué Aricie, elle a joué Armande des femmes savantes, elle a joué Angélique dans Le malade, Cordélia dans Le roi Lear, et enfin la reine de Ruy Blas, qu'elle a redonnée aussi à la Comédie française. Et elle est repassée à la Comédie française, et elle a fait 8 ans, 72-80. Alors là, ça commence à être quelqu'un de très connu, très apprécié par les critiques, le père Sarcey et compagnie.
Oui, mais alors il arrive quelque chose, là, je vous coupe un bref instant, parce que je voudrais immédiatement après me retourner vers Claude-Riche pour lui demander si ça compte. Parce qu'elle met la main, on peut dire, sur une pièce. Une pièce très courte, de François Copé.
Le passant, hein.
Oui, le passant. Elle le raconte, elle montre, à ce moment-là, c'était à l'Odéon, elle sort, les étudiants lui font un triple banc. Alors, Claude-Riche, est-ce qu'on peut démarrer dans une carrière, parce que tout d'un coup, on a été choisi pour une pièce, ou parce qu'on a choisi une pièce, ou parce qu'un auteur vous a choisi pour une pièce?
Oui, en général, c'est la chance qu'attend chaque acteur. C'est sa chance. C'est-à-dire qu'un jour, dans un rôle, toutes les qualités de l'acteur s'épanouissent. Et je pense que chaque acteur qui a eu un certain nom a eu un jour une chance comme ça. Et puis quelquefois, il y en a eu d'autres après. Oui. Mais enfin, il a eu sa première chance. Je peux dire, si je peux amener quelque chose de personnel, moi, ça a été Château en Suède de Françoise Sagan, si vous voulez. C'était une première chance au théâtre.
C'est-à-dire, on pourrait, si je vous entends bien, penser qu'il existe encore aujourd'hui, ou qu'il existait de tout temps, Gilbert Sigaud,
oui, bien sûr,
des comédiens ou des comédiennes qui, n'ayant pas eu cette chance, sont restés obscurs, alors...
C'est-à-dire qu'ils ne sont pas restés obscurs, ils sont connus dans leur profession.
Mais ce sont des grands rôles.
Le public les connaît, mais on ne les a pas encore acceptés complètement comme premier rôle, oui.
L'hospitalité est une qualité faite de saveurs primitives et de grandeurs antiques. Le peuple anglais est, à mon avis, le peuple le plus hospitalier du globe. Et il l'est simplement, largement. Quand il a ouvert sa porte, l'anglais ne la referme jamais. Il excuse vos défauts et accepte vos travers. Et c'est grâce à cette largeur d'idées que je suis restée depuis 25 ans l'artiste aimé et choyé. Je fus ravie de ma première soirée à Londres. Je rentrais à la maison très gaie et très anglomanisée. Je trouvais des amis, des Parisiens qui venaient de débarquer et qui étaient furieux. Mon enthousiasme les exaspéra et nous restâmes à discuter jusqu'à 2 heures du matin. Le lendemain, je me rendis au Rotten Row. Il faisait un temps radieux. Tout Hyde Park semblait semé d'énormes bouquets, tant par ces massifs merveilleusement composés par ces jardiniers que par les touffes d'ombrelles bleues, roses, rouges, blanches, jaunes, qui abritaient des chapeaux clairs couverts de fleurs, sous lesquels brillaient les jolies figures des bébés et des femmes. Sur la route des cavaliers, c'était le vertigineux galop des élégants pur-sang, emportant des centaines d'amazones fines, souples et hardies, puis des cavaliers et des enfants montant sur les larges poneys irlandais, d'autres enfants galopant sur des poneys écossais aux crinières longues et touffues, et cheveux d'enfants, crinières de chevaux, se soulevaient sous le vent de la course. La route des voitures, tenant le milieu entre les cavaliers et les piétons, était sillonnée de dog-carts, de calèches, de mail-coach, de huit ressorts et de très élégants cabs. Valets poudrés, chevaux fleuris, sportsmen conducteurs, ladies conduisant crânement d'admirables trotteurs. Toute cette élégance, tout ce parfum de luxe, toute cette joie de vivre, dressèrent devant mes yeux le souvenir évocateur de notre bois de Boulogne, si élégant, si vivant, quelques années auparavant, quand Napoléon III le traversait en Daumont, nonchalant et souriant. Ah, qu'il était joli, notre bois de Boulogne. Les officiers caracolaient dans l'avenue des Acacias, sous les regards des belles mondaines. La joie de vivre éclatait partout alors. L'amour de l'amour enveloppait la vie d'un charme infini. Je fermai les yeux et mon cœur s'angoissa sous l'étreinte de l'affreux souvenir de 1870. Il était mort, le doux empereur au sourire si fin, vaincu par les armes, trahi par la fortune, terrassé par la douleur. La vie intense avait repris son cours en France, mais la vie d'élégance, de charme, de luxe était encore enveloppée de crêpes. Il y avait à peine 8 ans que la guerre avait fauché nos soldats, ruiné nos espérances et humilié notre gloire. 3 présidents s'étaient déjà succédés. Le vilain petit Thiers, à l'âme bourgeoise et perverse, qui avait usé ses dents à grignoter tous les régimes, la royauté de Louis-Philippe, l'empire de Napoléon III et le pouvoir exécutif de la République française, n'avait guère pensé à redresser notre cher Paris courbé sous tant de ruines. Il avait été remplacé par Mac Mahon, bon, brave et nul. Et Grévy avait succédé au maréchal, mais Grévy était avare et trouvait toute dépense inutile, pour lui, pour les autres et pour le pays. Et Paris restait triste, gardant vivaces les lèpres que la commune lui avait communiquées par le baiser de ses brasiers. Et notre charmant bois de Boulogne portait encore les traces des blessures que la défense nationale lui avait infligées. Et l'avenue des Acacias restait solitaire. Je rouvris mes yeux pleins de larmes, et au travers de leur brouillard, j'entrevis à nouveau la triomphante vitalité qui m'entourait. Je voulus rentrer de suite, car je jouais le soir pour la première fois, et je me sentais en malaise et en désespérance. Quelques personnes m'attendaient à Chester Square. Je ne voulus voir personne. Je pris une tasse de thé et me rendis au Gaiety Theatre, où nous allions pour la première fois affronter le public anglais. Je savais déjà que j'étais élue favorite, et cela me glaçait de terreur, car je suis ce qu'on appelle une traqueuse. J'ai le trac fou. Quand je débutais, j'avais de la timidité, mais pas de trac. Je devenais parfois rouge comme un coquelicot quand mon regard croisait celui d'un spectateur. J'étais honteuse de parler si haut devant tant de gens silencieux. Cela tenait de mon éducation monacale. Mais je n'avais aucun sentiment de peur. La première fois que j'eus la sensation réelle du trac, ce fut au mois de janvier 1869, à la 7e, peut-être à la 8e représentation du Passant. Le succès de ce petit chef-d'œuvre avait été colossal et mon interprétation de Zanetto avait charmé le public et surtout les étudiants. Quand je fis mon entrée ce jour-là, je fus soudainement acclamée. Je me tournai vers la loge impériale, croyant que l'empereur venait d'entrer dans la salle, mais non, la loge était vide et je dus me convaincre que tous les bravos étaient pour moi. Je fus prise d'un tremblement nerveux et une folle envie de pleurer me picotait les yeux. J'eus un succès fou ce soir-là. Agar et moi fûmes rappelés 5 fois. Et à la sortie, les étudiants rangés de chaque côté me décernèrent 3 bancs. Rentrée à la maison, je me jetai dans les bras de ma grand-mère aveugle qui vivait chez moi. « Qu'est-ce que vous avez, ma petite ?»« Grand-mère, je suis perdue. Ils veulent faire de moi une étoile, et je n'ai pas encore assez de talent pour cela. Et vous verrez, on va me jeter à bas et m'assommer sous les bravos. » Ma grand-mère me prit la tête, et elle fixa le néant de ses grands yeux clairs sur mon visage. « Vous m'avez dit, ma petite, que vous seriez la première dans votre carrière. Et quand la chance se présente, vous avez peur. Vous me semblez un bien mauvais soldat. » Je refoulai mes larmes et me promis de soutenir courageusement le succès qui venait chercher noise à ma tranquillité, à mon insouciance, à mon je-m'en-fichisme. Mais à partir de cette époque, la peur s'empara de moi. Le trac me martyrisa.
Revenons à Sarah Bernhardt, j'ai dit.
Oui, je ne me souviens plus de ce qu'elle dit à propos du passant de Copé. Elle y attribue une si grande importance.
Ah oui, dans ses mémoires, elle attribue une oui. importance.
Non, parce que ses mémoires, je les ai lues, mais je n'ai pas relu de cette édition.
Elle dit même que c'est à ce moment-là, que jusqu'à ce moment-là, elle avait, dit-elle, et ça c'est assez beau, peut-être que l'Autriche approuvera, elle était jusqu'à ce moment-là timide. Mais à partir de ce triomphe, elle a eu le trac.
Oui, et ce que je trouve intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que vous dites qu'elle a choisi cette pièce. Et je pense que dans la carrière d'un acteur, il est très important de ne pas attendre qu'on vous propose des choses. Il faut aller au-devant des choses, il faut les provoquer. Et je pense que si elle a provoqué cette pièce, c'est normal qu'elle lui ait réussi.
Elle est allée la chercher. Je ne me souviens plus si c'est vrai ou non, peu importe.
De toute façon, Gilbert, nous faisons un peu, bousculons un peu la chronologie.
Oh, oui.
Confirmer ce que dit l'Autriche, il ne faut quand même pas oublier que lorsque Mme Sarah Bernhardt inaugure son propre théâtre, le théâtre Sarah Bernhardt, place du Châtelet.
Beaucoup plus tard, oui.
Beaucoup plus tard, non ?
Oui, 99,
bien sûr.
Bon. Oui.
Donc là, c'est déjà une actrice, disons, vieillissante. Mais enfin, elle a toute la gloire, bien sûr. Mais elle joue une partie de poker extraordinaire, vous pensez ? Elle a ce théâtre, elle l'a fait entièrement refaire. Ça ne coûtait pas rien. Elle a fait refaire toutes les coulisses, elle a fait remeubler l'entièreté, elle a fait recouvrir tous les fauteuils, elle a fait construire une loge fabuleuse, enfin, qui était la sienne. Elle avait un triomphe assuré, elle n'avait qu'à reprendre Phèdre de Racine qui avait toujours été son triomphe. Elle pouvait reprendre un Sardou peut-être.
Oui.
Non. Elle choisit quoi ? Un inconnu. Un inconnu. L'Aiglon.
Non, c'est pas par L'Aiglon. M'excuse. Elle a commencé par Hamlet, qu'elle a joué en travesti.
Oui.
Mais enfin, L'Aiglon, c'était l'année d'après.
L'Aiglon, tout de suite, pour se lancer, enfin, pour réellement lancer le théâtre Sarah Bernhardt, elle choisit quand même L'Aiglon. Il fallait le faire. Et là où elle apparaît, aussi en travestie, bien sûr, puisque c'est elle qui joue le duc de Reichstadt.
À son âge.
À son âge.
Enfin, on revient un tout petit peu en arrière.
Elle avait quel âge ? Je m'excuse.
En 1900, elle avait 56 ans.
Ah oui, c'est ça.
Alors pensez à l'époque.
Ouais. Dites-donc. Après son retour à la Comédie Française en 1880, elle a fait des tournées. Ce qui a été quand même une des clés de sa carrière aussi, son côté international. Elle est allée plusieurs fois aux États-Unis. Comme la 12, du reste, qui y est morte, elle, et d'un accident de santé. Et elle a eu là-bas des triomphes extraordinaires. Elle a gagné des sommes folles, ce qui lui a permis de faire des folies à Paris en achetant un hôtel particulier, comme aussi à Belle-Île, où elle a acheté beaucoup de maisons, enfin, elle a fait construire des trucs. peu importe.
Où elle invitait beaucoup d'écrivains.
Oui, bien sûr. Elle a eu après deux théâtres, la Porte Saint-Martin et la Renaissance, où elle est passée à la Porte Saint-Martin. Je ne sais plus quel était l'accord qu'elle avait passé, mais elle n'était pas la patronne entièrement. Mais il y a joué la Dame aux Camélias, Macbeth, Marion de Lorme. Elle y a joué Théodora de Victorien Sardou, qui a été un de ses fournisseurs. Et à la Renaissance, elle y a joué Phèdre, la Dame aux Camélias encore. Et puis Lorenzaccio qu'elle a créé, parce qu'en 1896, c'est la première fois qu'on joue Lorenzaccio. Elle l'avait fait arranger, adapter par Armand d'Artois, qui était un fabricant de l'époque, enfin probablement un brave type, rien contre lui, qui avait diminué le nombre des tableaux de Lorenzaccio pour qu'on puisse le jouer. Et elle joue encore cela en travesti. Et elle a créé une autre pièce, une pièce de Rostand à cette époque, La Samaritaine aussi, en 1997. Et enfin, elle arrive au Théâtre Sarah Bernhardt au début de l'année 99. Elle joue Hamlet et puis L'Aiglon, qui est un triomphe. Elle a joué aussi dans Cyrano, mais seulement à New York. Elle a joué Roxane dans Cyrano. Elle a joué Les Précieuses Ridicules, Phèdre, Théroigne de Méricourt, la pièce en six actes de Paul Hervieux, qui est absolument imbuvable. Enfin, Andromaque, Sappho d'Alphonse Daudet. Elle a joué Péléas à Londres, sans la musique, bien sûr. Elle a joué la Tisbé dans Angelo, elle a joué Assuérus dans Esther. Et elle a joué son Adrienne le Couvreur en 1907. Elle avait joué celle de Scribe et de Gouvet. Elle a joué Lucrèce Borgia, je finis l'énumération, naturellement je ne dis pas tout. Elle a joué Dorine dans Tartuffe. Elle a refait une longue tournée aux États-Unis entre décembre 1912 et décembre 1913. Elle a joué Jeanne Doré, qui était une pièce sérieuse, même un mélodrame de Tristan Bernard, où jouait Raymond Bernard, le futur réalisateur de cinéma. Et enfin, Phèdre, le dernier moment de sa vie, 1915, c'est quand on lui coupe la jambe. Il a une maladie, on lui coupe la jambe à Toulouse ou à Bordeaux, je ne sais pas. Et on raconte naturellement à ce moment-là des tas d'histoires que beaucoup de gens ont repris depuis et qui ne sont pas exacts. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pu supporter un appareil, donc elle n'était pas appareillée. Elle transportait sur une petite chaise à porteur et elle n'a joué à ce moment-là que des rôles où elle pouvait être assise, c'est-à-dire Athalie et deux pièces, que Louis Verneuil, qui avait épousé sa petite-fille, Lysiane, lui a écrites. Louis Verneuil a du reste fait un livre sur Sarah Bernhardt qui est très peu connu parce qu'il a été publié aux États-Unis pendant la guerre. Et c'est un très bon livre parce que c'est un livre de témoins. Naturellement, il rapporte les fantaisies un peu imaginatives de Sarah Bernhardt, peut-être sur sa jeunesse et sur sa naissance, mais il a été aussi un témoin, et c'était un homme de bonne trempe, Verneuil.
Mais ce qu'il y a d'étonnant chez Sarah Bernhardt, parce qu'en lisant toujours, évidemment, ses mémoires, en leur accordant donc le crédit que l'on peut, évidemment, accorder à ce genre d'ouvrage, parce que c'est du vécu, bien sûr, mais traversé par tellement de fantasmes, enfin, qu'on ne sait plus, évidemment, très bien les témoignages manquants. C'est les rapports qu'entretient Sarah Bernhardt, n'est-ce pas, avec les écrivains, avec les auteurs. Il y a, par exemple, Claude Rich, cette scène que nous allons entendre, mais que je résume d'abord, c'est Victor Hugo, n'est-ce pas, Victor Hugo, nous sommes en 1871, Victor Hugo est rentré donc en 70, et en 71, c'est la question de reprendre Hernani. Et on lui dit, c'est vous qui jouerez, et qui pourrez peut-être jouer... l'héroïne, et Victor Hugo n'est pas contre, parce que Meurice et Vacry, qui déjà le couvrent beaucoup, sont d'accord, et il dit, vous viendrez auditionner chez moi. Alors elle trouve ça absolument insolent. comment peut-on se déplacer chez un auteur alors qu'on a un théâtre, et qu'il y a des théâtres où l'auteur peut venir vous auditionner?
Cette année 1871, on nous annonça d'une façon un peu mystérieuse et solennelle que nous allions jouer une pièce de Victor Hugo. J'avais à cette époque de ma vie le cerveau encore fermé aux grandes idées. Je vivais dans un milieu un peu bourgeois par ma famille, un peu cosmopolite par ses connaissances et amis plus ou moins snobs, et par les connaissances et amis que ma vie indépendante d'artiste m'avait fait choisir. J'avais entendu depuis mon enfance parler de Victor Hugo comme d'un révolté, d'un renégat. Et ses œuvres que j'avais lues avec passion ne m'empêchaient pas de le juger avec une très grande sévérité. Et je rougis aujourd'hui de rage et de honte en pensant à tous mes absurdes préjugés entretenus par la petite cour imbécile ou de mauvaise foi qui m'encensait. J'avais cependant le grand désir de jouer Ruy Blas. Le rôle de la reine me semblait si charmant. Je fis part de ce désir à Duquesnel, qui me dit y avoir pensé déjà. Cependant, Jeanne Esler, artiste en vogue mais un peu vulgaire, avait de grandes chances contre moi. Elle était alors très liée d'amitié avec Paul Meurice, l'ami intime, le conseiller de Victor Hugo. Un ami amena chez moi Auguste Vacry, l'autre ami et même le parent de l'illustre maître. Auguste Vacry promit de parler à Victor Hugo. Deux jours après, il revint me voir, m'affirmant que j'avais toutes les chances pour moi. Paul Meurice lui-même, homme intègre, âme charmante, m'avait proposé à l'auteur. Puis, Geffroy, l'artiste admirable retiré de la Comédie-Française et appelé à jouer Don Salluste, avait dit, paraît-il, qu'il ne voyait qu'une petite reine d'Espagne digne de porter la couronne, moi. Je ne connaissais pas Paul Meurice, et j'étais un peu étonnée que ces gens me connussent. La lecture fut annoncée pour le 6 décembre 1871, à 2h, chez Victor Hugo. J'étais tellement gâtée, tellement adulée, encensée, que je me sentis blessée par ce sans-gêne d'un homme qui ne daignait pas se déranger et invitait des femmes à venir chez lui alors qu'il avait un terrain neutre, le théâtre, fait pour l'audition des pièces. Je racontais ce fait inouï à 5h chez moi devant ma petite cour. Et femmes et hommes se récrièrent. Comment ? Se châtier d'hier, se pardonner d'aujourd'hui, se rien du tout ? Osait demander à la petite idole, à la reine des cœurs, à la fée des fées, de se déranger ? Tout mon petit cénacle était en émoi. Hommes et femmes ne tenaient pas en place. Elle n'ira pas. Écrivez-lui ceci, écrivez-lui cela. Et on ébauchait des lettres impertinentes, méprisantes, quand on annonça le maréchal Canrobert. Il faisait alors partie de ma petite cour de 5 heures. Il fut très vite mis au courant par mon turbulent entourage. Il se fâcha tout rouge sur les imbécilités débitées contre le grand poète. « Vous ne devez pas, me dit-il, aller chez Victor Hugo, qui n'a, ce me semble, aucune bonne raison pour se dérober aux usages établis. Mais prenez l'excuse d'un malaise subi. Et croyez-moi, ayez pour lui le respect qu'on doit au génie. » Je suivis le conseil de mon grand ami. Et voici la lettre que j'envoyais au poète. « Monsieur, la reine a pris froid. Et sa camérera meilleure lui interdit de sortir. Vous connaissez mieux que personne l'étiquette de cette cour d'Espagne. Plaignez votre reine, monsieur. » Je fis porter la lettre. Et voici la réponse que m'envoya le poète. « Je suis votre valet, madame. » Victor Hugo.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que c'est certainement... Je comprends qu'elle ait été choquée du fait qu'on lui ait demandé de l'entendre.
Mais Victor Hugo ?
C'était, bien sûr, ne la connaissait pas.
Ah oui, mais elle, c'était comme, pour elle, comme pour toute la France, le grand homme, n'est-ce pas, qui rentrait.
Oui, oui, eh bien, elle avait... C'était une femme qui était orgueilleuse, sûrement, mais qui avait des raisons de l'être. Je pense qu'il n'y a pas...
Qui lui a fait la cour, on ne me souvient plus.
Oui, mais ça fait aussi partie d'un légendaire, ouais. comme il en existe oui. Beaucoup. Il est évident qu'il y avait autour de Sarah Bernard une cour d'hommes. On a beaucoup parlé, ce qui est très possible d'ailleurs, évidemment, de sa grande amitié, un peu plus qu'amoureuse peut-être avec Jean Richepin, n'est-ce pas ?
Oui.
Bien sûr.
Mais elle l'a joué, hein, Donia Sol. Elle a beaucoup joué la reine de
Ruy Blas. Oui, mais enfin...
Donc elle a accepté de...
Elle l'a joué aussi en l'absence de Hugo Dandila, n'est-ce pas, c'était le père Hugo, quand même, n'est-ce pas, qui revenait comme ça, presque président de la République. En tout cas, président de la République.
C'est-à-dire qu'un acteur, quand on parle d'audition, en général, c'est un mot qu'un acteur n'aime pas beaucoup. Et que ça soit n'importe qui, il veut bien jouer n'importe quoi, avoir des discussions. Mais le mot audition braque toujours un acteur.
Je voulais dire une chose, ça dérange la chronologie, mais tant pis, parce que c'est un oubli qu'on pourrait me reprocher. Une des dernières pièces qu'elle a jouées, c'était une pièce de Maurice Rostand qui s'appelle La Gloire. Je vais y penser parce qu'elle a eu assez de succès avec ça. Et Maurice Rostand était le fils d'Edmond.
Oui, alors il y a tout cet aspect Sarah Bernhardt qu'il faudrait peut-être éliminer, enfin tout ce côté un petit peu trop monstre sacré. Ce qui est frappant, enfin, dans les mémoires, je pense à un texte, encore un autre texte, toujours un texte, c'est quand même pendant le siège de Paris, de 1870, où Sarah Bernhardt, mais peut-être beaucoup de comédiens l'ont fait, n'est-ce pas, beaucoup de gens le faisaient volontairement, devient ambulancière. De la même façon qu'elle a acclamé la Marseillaise de 1914 à 1918, enfin bien entendu. Mais là, elle est ambulancière et elle raconte quand même d'une façon assez belle, enfin, le pathétique qu'elle éprouve devant les blessures de ces malheureux qu'on ramasse ça dans les rues, qui sont à moitié ventrés et qui meurent.
Continuait à bombarder Paris. Une nuit, les frères de l'école chrétienne vinrent réclamer des bras et des voitures pour ramasser les morts sur le plateau de Châtillon. Je donnai mes deux voitures et je voulus aller avec eux sur le champ de bataille. Ah, l'horrible et dantesque souvenir! La nuit était glaciale. Nous avancions avec peine. Enfin, des torches et des falots nous indiquèrent que c'était là. Je descendis avec l'infirmier et son aide. Je portais une lanterne. Il fallait s'avancer lentement, car on heurtait à chaque pas des mourants ou des morts. Nous passions en murmurant « Ambulance, ambulance !» Alors une plainte dirigeait nos pas. Ah, le premier que je trouvais ainsi. Il était à moitié couché, le corps appuyé contre un monceau de morts. Je levai ma lanterne près de son visage. Il avait l'oreille et la moitié de la mâchoire emportées. De gros caillots de sang coagulés par le froid pendaient le long de sa mâchoire inférieure. Son regard était fou. Je ramassai un brin de paille et, le trempant dans la gourde, j'aspirai quelques gouttes d'eau de vie que j'insufflais entre les dents du pauvre enfant. Je renouvelai ce manège 3 ou 4 fois. Il reprit un peu de vie et nous le transportâmes dans une des voitures. Ainsi fut fait pour les autres. Quelques-uns buvaient à même la gourde, ce qui abrégeait la besogne. Un de ces malheureux était effroyable à voir. Un éclat d'obus l'avait absolument déshabillé de tout le haut du corps. Seuls les deux bras avaient conservé les manches déchiquetées à la naissance de l'épaule. Aucune trace de blessure. Son pauvre torse nu était marbré de grosses taches noires et le sang coulait lentement des commissures de la bouche. Je m'approchai, car il me semblait respirer. Je lui fis prendre quelques gouttes du cordial vivifiant. Il entr'ouvrit les yeux et dit merci. Nous le transportâmes dans la voiture, où le pauvre mourut dans un spasme hémorragique qui couvrit tous les autres blessés d'un abondant flot de sang noir. Le jour venait peu à peu, un jour ouaté et sournois. Les falots s'éteignaient et nous nous distinguions tous les uns les autres. Une centaine de personnes étaient là. Petites sœurs de charité, infirmiers, militaires et civils, les frères des écoles chrétiennes, d'autres prêtres, et quelques dames qui, comme moi, mettaient toute leur force, tout leur cœur au service des blessés. Le spectacle était plus lugubre encore à la lueur du jour, car tout ce que la nuit gardait dans ses ombres apparaissait alors sous le jour blafard et tardif de ce matin de janvier.
Votre triche au côté humain des comédiens n'est pas quelque chose d'aussi peut-être nécessaire. Est-ce que derrière le monstre sacré, il ne faut pas qu'existe une sorte de faiblesse pour que le comédien se réalise pleinement?
Je pense que ça n'est pas une faiblesse. Je pense que un comédien, pour être un grand comédien, doit être avant tout humain et tout à fait dans la vie. Je veux dire, si un monstre sacré restait sur son Olympe, là-haut, il n'aurait plus de contact avec la vie et deviendrait une baudruche. Et je pense que tous les grands acteurs ont été, quelque part, des gens profondément humains. Je suis persuadé, parce que... ou alors ils l'oublieront plus tard, je veux dire, ils deviendront plus tard des guignols. Je pense qu'un grand acteur, s'il est digne de sa réputation, est quelqu'un qui est profondément humain quelque part. Il faut quelquefois le chercher. Mais...
Je voudrais soulever maintenant deux lièvres. D'une part, la préface de Claudine Herrmann, parce qu'elle gratifie peut-être Sarah Bernhardt de quelque chose qui, moi, me paraît... assez singulier, parce qu'elle dit, je ne sais pas sur quoi elle se fonde, elle dit, au fond, finalement, c'est la seule comédienne, n'est-ce pas, qui n'ait pas eu d'ennemis. Elle n'a cherché de querelle à aucune comédienne, alors que c'est pas vrai. Même dans les mémoires, elle dit, oh, celle-là, elle est très mauvaise. Enfin, bon, ben, nous le savons. Et il y a d'ailleurs un exemple absolument célèbre de cela, c'est ses rapports avec Marie Colombier. On peut évidemment dire que Marie Colombier a tort dans cette affaire, puisque, en bref, elles partent ensemble en tournée en Amérique. Sarah Bernhardt donne à Marie Colombier que des petits rôles, ça déplaît beaucoup à Marie Colombier, qui revient et qui publie Sarah Barnum, enfin les mémoires de Sarah Barnum, le titre dit tout, bien entendu. Ce livre d'ailleurs n'était probablement pas de Marie Colombier mais de Bonnetin, et il est bien certain que ça a été très très loin, que ça a fait un scandale assez épouvantable, enfin, et que Sarah Bernhardt a écrit, ou a fait en tout cas écrire des libelles contre Marie Colombier.
Marie Pigeonnier.
Oui, bien
ça s'appelait Marie Pigeonnier.
Exactement, n'est-ce pas? Je ne vois pas dans toute l'histoire du 19e siècle au théâtre, Gilbert Sigaud peut le confirmer, qu'il n'y ait pas eu de rivalité absolument extraordinaire. Rachel, Marie Dorval, Ida Ferrier, ça s'entre-déchirait et ça se déchirait, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Claude?
Oui, je pense que ça arrive toujours. Je pense que maintenant, les comédiens ont des rivaux, mais des rivaux, il y en a beaucoup, parce que les comédiens sont beaucoup plus nombreux qu'avant. Alors, on n'a pas un rival préféré, si vous voulez. On a beaucoup de rivaux préférés.
Oui, parce que c'est là où je voulais aussi en venir, c'est le second lièvre, parce que je me suis toujours dit ceci, qu'au fond, il y avait beaucoup moins de gens, en nombre, qui aient pu voir Sarah Bernhardt réellement, qu'aujourd'hui, même Claude Rich, dans un film, qui est en plus repris à la télévision.
Il est certain, oui, il est certain, quand on joue une pièce. D'abord, maintenant, au théâtre, où on joue 30 fois, c'est comme aux États-Unis, où quelquefois on joue 500, où on arrive à jouer 1000 fois, je ne pense pas que Sarah Bernhardt faisait autant de représentations. Les représentations étaient assez limitées. Et puis alors maintenant, quand une pièce marche longtemps, elle est reprise à la télévision, et en un seul soir, elle fait déjà plus que...
Un million
de spectateurs. Alors, il est certain, mais en contrepartie, comme beaucoup d'acteurs font la même chose, ça annule d'un certain côté ce qui vient de se produire. Donc, les acteurs sont connus, mais en même temps, les autres leur portent tort.
Oui.
Et c'est-à-dire que vous faites une télévision avec un rôle très important, pendant 2-3 jours, les gens se souviennent, et après, au bout de 2-3 jours, ils se souviennent de celui qui est parti, qui est passé la veille.
Oui, est-ce qu'il n'y a pas justement un gommage du nom, presque ?
Absolument, oui. Les gens disent « Ah, c'est un tel ». Mon ami Bernard Noël, qui était un grand comédien et que j'aimais profondément, s'était rendu célèbre par beaucoup d'autres choses avant d'avoir fait Vidocq. Et les gens disaient Vidocq, souvent, ce qui avait le don de, un petit peu de l'agacer, malgré tout, parce qu'il avait joué des rôles magnifiques au théâtre et tout ça. Et forcément, le grand public, lui, le reconnaissait à travers Vidocq.
Je suis d'ailleurs frappé, en fait, ceci c'est simplement une parenthèse, mais je suis frappé parce que vous venez de parler de feuilletons à la télévision, d'éprouver moi-même ce phénomène, c'est-à-dire si je vois par exemple un film, série B américain, je me dis, ah, ce comédien, oui, c'est vrai, c'est celui qui jouait tel rôle dans telle série.
Oui, c'est ça.
De feuilletons, n'est-ce pas ? Il n'y a plus adéquation, si vous voulez, entre le nom.
Oui.
Et le personnage, on est beaucoup plus typé.
Typé, c'est ça, absolument. Et les gens, et alors les gens vous voient dans certains rôles. Quand par hasard on joue un rôle, quand on a l'habitude de jouer des gens pas trop désagréables au point de vue caractère, quand on joue un très méchant, le public est déçu un peu. Il dit « Oh, mais c'est pas un rôle pour vous, mais oh non, vous êtes épouvantable dans ce rôle-là. Non, recommencez pas. » Et alors, le public a envie de voir ce qu'il a déjà vu. Et s'il a l'habitude de voir un méchant, il pourra jamais imaginer qu'il est gentil. Et il est un peu... Il croit aussi que dans la vie, vous êtes un peu comme ça, je veux dire.
Oui, oui.
La façon dont le public parlait à André Bourvil était une façon tout à fait affectueuse et gentille et tout à fait familière. Mais par contre, à Pierre Fresnay, le public le vous voyait et était beaucoup plus intimidé parce que ces personnages étaient comme ça. Et je crois que c'est très important. Le public s'identifie au rôle que l'acteur joue.
Ce qui n'était pas le cas, évidemment, au temps de Sarah Bernard.
Non, de Sarah Bernard. Il serait intéressant de savoir ce qu'on a fait des nombreuses lettres qu'elle a dû recevoir pour voir la façon dont on l'admirait. On sait qu'il y avait la façon excessive, qu'aux États-Unis, enfin, elle avait un train spécial, il y avait beaucoup
de manifestations. On lui avait offert une baleine.
Oh, il y a eu tellement de choses, c'est bien possible.
Si, on lui avait offert une baleine, mais le drame, c'est qu'on ne savait pas comment la conserver.
Ah ben oui.
Une baleine, bien sûr.
On ne s'est pas tué pour elle, mais enfin, elle a quand même laissé des passions derrière elle. Elle s'est mariée qu'une fois. Avec Damala, Jacques Damala, qui était un comédien, et là on a eu un autre comédien dans sa vie après, qui a fini à Hollywood.
Et l'amour pour le fils.
Et puis, bien sûr, elle a eu le Maurice Bernard, qui est né du prince de Ligne, c'était un de ses amants, et qu'elle a chéri, qui est mort 5 ans après elle.
Qui était le grand amour de sa vie, probablement.
Qui était, oui, probablement, elle lui a donné l'ambigu, elle lui a acheté l'ambigu quand il avait 16 ans, il ne pouvait rien en faire, tout seul, mais enfin, il y avait un autre directeur.
Elle n'a eu qu'un enfant.
Maurice Bernard, oui. Qui lui ressemblait un peu, qui était assez beau. Et qui a eu des filles qui ont été charmantes. Et il y en a une qui a écrit un très bon livre, très intéressant sur sa grand-mère. C'est celle qui fut la femme de Louis Verneuil. Tout ça, ça fait un ensemble qui est très intéressant, qui se relie à beaucoup de grands personnages du théâtre. Sardou, comme Rostand, ont été prêts. Il faudrait relever aussi tout ce que Jules Renard a écrit sur elle dans son journal. C'est très, très intéressant, parce qu'il l'adorait. Il allait la voir.
Et Jean Lorrain.
Jean Lorrain aussi, oui.
Jean Lorrain, qui lui faisait une cour assidue, n'est-ce pas, bien entendu, parce qu'il voulait se faire jouer également. Ouais. Enfin, et d'ailleurs, il a laissé un posthume qui s'appelle Les Tréteaux, dans lequel elle passe indéniablement en vedette.
J'avais pour amis une dizaine de chefs aux différentes opinions, et tous m'intéressaient, les plus fous et les plus sages. Je voyais souvent Gambetta chez Girardin, et c'était une joie pour moi d'écouter cet homme admirable. Ce qu'il disait était si sage, si pondéré et si entraînant. Cet homme au ventre épais, aux bras courts, à la tête trop grosse, prenait quand il parlait une auréole de beauté. Du reste, Gambetta n'était jamais commun, jamais ordinaire. Il prisait, et son geste de la main pour chasser les grains épars était plein de grâce. Il fumait de gros cigares et savait fumer sans incommoder personne. Quand fatigué de la politique, il parlait de littérature, c'était un charme unique. Il savait tout et disait admirablement les vers. Un soir, après un dîner chez Girardin, nous jouâmes ensemble toute la scène du premier acte d'Hernani avec Donia Sol. Et s'il n'y fut pas beau comme Mounet Sully, il y fut aussi admirable. Une autre fois, il récita tout Ruth et Boz en commençant par le dernier vers. Mais je préférais encore à tout cela ses discussions politiques, surtout lorsqu'il rebondissait sur la réplique d'une opinion contraire à la sienne. Les qualités éminentes du talent de cet homme politique étaient la logique et la pondération, et sa force entraînante était son chauvinisme. La mort si menue de ce grand cerveau est un déconcertant défi jeté à l'orgueil humain. Je voyais parfois Rochefort, dont l'esprit me ravissait. Mais je ressentais cependant un malaise près de lui, car il était cause de la chute de l'Empire. Et quoique je sois très républicaine, j'aimais l'empereur Napoléon III. Il a été trop confiant, mais bien malheureux. Et il me semblait que Rochefort l'insultait trop après son malheur. Je voyais aussi très souvent Paul de Rémusat, enfant chéri de Thiers. C'était un esprit délicat, aux idées larges, aux manières élégantes. Quelques-uns l'accusaient d'orléanisme. Il était républicain, et républicain beaucoup plus avancé que M. Thiers. Et c'est bien peu le connaître que de le croire autre chose que ce qu'il disait être. Paul de Rémusat avait l'horreur du mensonge. Il était sensible, droit et ferme de caractère. Il ne prenait de part active à la politique que dans les cercles fermés et son avis prévalait toujours, même à la Chambre, même au Sénat. Il ne voulut jamais parler que dans les bureaux. 100 fois, on lui proposa le portefeuille des Beaux-Arts, 100 fois, il refusa. Enfin, une fois, sur mes instances répétées, il faillit se laisser nommer ministre des Beaux-Arts. Mais au dernier moment, il refusa et m'écrivit une lettre délicieuse, dont voici quelques passages. La lettre n'ayant pas été écrite pour être publiée, je ne me reconnais pas le droit de le faire, mais je puis sans crainte publier ces quelques lignes. Permettez-moi, ma charmante amie, de rester dans mon ombre. J'y vois plus clair que dans l'éclat aveuglant des honneurs. Vous me savez gré parfois d'être attentif aux misères que vous me signalez. Laissez-moi dans mon indépendance. Il m'est plus agréable d'avoir le droit de soulager tout le monde que d'être forcé de soulager n'importe qui. Je me suis fait, en fait d'art, un idéal de beauté qui semblerait à juste titre trop partial. C'est bien dommage que la droiture de cet homme délicat ne lui ait pas permis d'accepter ce poste. Les réformes qu'il indiquait étaient bien nécessaires, et le sont encore. Enfin.
Il est évident qu'il y avait un phénomène de sacralisation.
Oui.
De cristallisation.
On l'a peut-être un peu gonflé aussi. C'est-à-dire tous ceux qui ont écrit sur elle après sa mort. Il y a eu Maurice Behring. Il y a eu, j'ai oublié la grande Sarah, ce n'est pas Rénal Lohan, mon Dieu.
Si, c'est
Rénal Lohan, non mais je cherche le titre, peu importe. Mm. Il y a eu, des contemporains,
Proust.
Une américaine, oui Proust, non mais je veux dire les livres ont constitué sa biographie.
Oui,
et le meilleur de tous que Mme Herman lui cite dans sa préface, celui du Suisse Ernest Prognier, qui a été publié par sa famille, parce qu'il est mort quand il a fini le livre, mais qui est une sorte de Bible, parce qu'on y trouve à peu près tout, sauf ce qui concerne la vie privée. Il est très, très, vraiment très réservé de ce côté-là. On ne peut pas lui reprocher, il y a déjà assez de gens pour soulever les jupes sans qu'on regrette ce qu'ils ne font pas. Mais dans tout cet ensemble de livres, il y a aussi des livres écrits en anglais. Il y en a un publié en anglais, curieusement, par une... la veuve ou la femme d'un comédien qui s'appelait Berton, qui était très connu. Pierre Berton et Madame Berton a écrit sur Sarah Bernhardt un livre plein d'inventions et de sottises. Je ne sais pas s'il a eu beaucoup de succès en Angleterre, mais c'est quelque chose. Alors cet ensemble, repris par XYZ aujourd'hui, ne citons pas de nom, ça n'a pas d'intérêt, ça donne quand même matière à une surévaluation du phénomène, à la mythification et tout ça.
Oui, mais si je citais Proust, c'était aussi pour ça.
Oui, mais je termine. Mais contre ce que je viens de dire, il y a un journal que j'ai gardé, non pas que je l'ai acheté à l'époque, mais enfin je l'ai acheté après, de 1923. Je crois que c'est un numéro du Figaro, avec les obsèques de Sarah Bernhardt. Mais c'était à peu près, je simplifie, c'était pas les obsèques de Victor Hugo, mais il y avait du monde dans la rue à voir les photographies. C'était extraordinaire. Donc on lui a fait des obsèques de reine du théâtre. Et peut-être que c'est moi qui pense qu'on a un peu exagéré après, enfin, qu'on est parti de son personnage pour en faire un autre.
Oui, mais le fait.
Je me méfie toujours un peu dans l'histoire.
Oui, mais le fait qu'elle passe aussi, disons, vivante dans des œuvres de fiction, pas comme Proust, enfin, bon, on voit Proust. Est-ce que ce serait possible aujourd'hui, Claude Triche, que quelqu'un écrive comme ça un livre dans lequel un des personnages serait l'acteur, mais.
Un tel.
L'acteur un tel.
Oh, ça doit exister.
Oui, ça doit exister, je pense, oui.
Dans des romans policiers de la série noire, sûrement.
Oui, c'est ça.
Oui. Il y en a. Je restais au niveau Proust.
Oui. Alors, montons quelques
Oui, je pense que ça existe, oui.
Ça existe.
Oh, oui,
ça existe. Qui existe encore une fascination telle exercée par une comédienne ou un comédien et qui fasse que. Alors peut-être effectivement il y a un rapport avec, entre Caroline Chéry de Cécile Saint-Laurent et telle comédienne de l'époque.
Oui.
Je ne sais pas, peut-être.
Oui.
C'est
oui.
moins clair.
Une
en tout
comédienne
cas.
Qui serait à l'heure actuelle qui fascinerait de la façon dont Sarah Bernhardt a fasciné son époque. Je pense que il y a eu certainement oui certainement ça oui mais je parlais plus récemment il y a eu Brigitte Bardot bien sûr
oui mais est-ce qu'il n'y a pas là justement une différence
c'est que
Martine Carole, Brigitte Bardot, Marilyn Monroe par exemple ont représenté des types féminins.
Oui.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, les hommes aimaient les Brigitte Bardot, les Martine Carole,
les femmes
qui leur ressemblaient. Alors que Sarah Bernhardt jouant en travesti, on ne peut quand même pas imaginer, qu'elle ait représenté la femme de l'époque.
Elle ne représentait pas. Pas du tout, non, puisqu'elle était très mince.
Oui.
Elle n'avait pas de hanches.
Mais c'est étonnant. Je crois qu'il doit y avoir certainement toujours eu un besoin d'admirer. Et je pense qu'elle représentait pour eux l'art en même temps que la femme.
Ouais, et peut-être plus l'art que la femme.
Oui, parce que c'est très curieux, on n'a pas parlé encore de disques qui restent quand même vivants, un peu de sa voix, et d'entendre ce qui reste. Eh bien, quand on l'entend, on est tout à fait surpris de voir cette façon. Et on se dit maintenant, c'est drôle, ça ne passerait plus du tout. Et je pense que ce qui passait, c'était une musique, un lyrisme, une force prodigieuse. Et que si la forme paraît démodée, elle ne l'est pas en définitive. Je crois que quand on réécoute des acteurs, il faut les identifier avec leur physique et leur façon d'être, et qu'on ne peut pas entendre une voix toute seule. Pourquoi vous ouvrez-vous, vous, je plaigne d'horreur. Quoi, allez-vous crier?
La voix de De Max aussi, que j'ai entendue, et ressemblait un petit peu à celle de Sarah Bernhardt dans le masculin, si on peut dire. Et puis, les voix de Mounet Sully et de quelques autres, c'est la même chose.
Ouais.
Et si on entend la voix d'Apollinaire dire un poème, Apollinaire aussi ne le dit pas d'une façon naturelle. Il est vrai que ce n'est pas un acteur, mais quand même.
Mais oui, mais je suis frappé là, parce qu'on a un exemple, je pense, de ceci très précis. C'est Mounet Sully, justement. Mm-hmm. Ça se trouve dans l'excellent film anthologique, enfin Paris 1900 de Nicole Vedrès, mm-hmm. où on voit Mounet Sully jouant Oedipe. Et où, effectivement, si on isole la voix, c'est tout à fait différent que si on la réintègre à cette théâtralité qui était la sienne.
Oui. Même maintenant, moi je me souviens, et Claude Rich s'en souvient sûrement aussi, d'avoir vu jouer Jean Yonel, oui. qui était un comédien français, oui. qui avait gardé certainement des traditions assez anciennes, parce qu'il jouait, notamment dans des pièces de Monterland, j'ai oublié La Queue de la Reine Morte, qu'il a dû créer.
Oui, je faisais de la figuration avec lui.
Vous vous souvenez, la façon dont il jouait La Reine Morte et le ton dont il jouait, moi je l'ai revu à la télévision, il y a, je crois, 2 ans, peu importe, eh bien, c'était très, très difficile à accepter. Il avait c'était sûrement un grand comédien, question n'est pas là, mais il jouait avec une sorte de noblesse, de pompe perpétuelle, d'élévation du ton. Maintenant, on ne jouerait plus comme ça. Et c'est pas une critique, c'est pour conforter ce que dit Ulrich avec son expérience, hein, c'est vrai.
Et j'étais l'élève de Georges Leroy, qui a été l'élève de beaucoup d'acteurs de ma génération et de générations plus anciennes. Il a été l'élève de Gérard Philippe.
Le maître, excusez-moi. Parce que vous disiez tout à l'heure, et c'est vrai, avant qu'on parle, qu'il a été, lui, l'élève de ces
Mais
gens.
C'est ça. Voilà, Georges Leroy a été l'élève de Mounet Sully et de Sarah Bernhardt. Et il nous disait, je vous retransmets la tradition. Et il disait, la tradition n'est pas de refaire ce qui a déjà été fait, mais de retrouver l'esprit à travers lequel les choses ont déjà été faites. Et c'est ce qui nous retransmettait, c'était la tradition. Et ce qui est très important, c'est que Georges Leroy était, au conservatoire quand j'y étais, celui qui nous a enseigné l'art le plus moderne. Vous voyez, Belmondo a été son élève, Rochefort, Marielle, Girardot, tout ça, on était dans la même classe, je veux dire, Crémer. Donc vous voyez, c'était l'élève de Mounet Sully et de Sarah Bernhardt. Donc il a pris la tradition de Sarah Bernhardt et de Mounet Sully et nous l'a retransmise, et ça arrive à faire Belmondo.
Oui. Ça, c'est intéressant. Oui, là, c'est ce qui est le plus intéressant dans ce que nous disons, à mon avis, c'est ça. C'est ça. Pour qu'on comprenne que les formes d'art ont une évolution qui ne les vieillit pas, mais les transmue, les transforme. Et dans l'art dramatique, ça, c'est sûrement tout à fait vrai. C'est ce que vous dites.
Qui se transmet à travers... c'est là que le métier d'acteur est un merveilleux métier. C'est que nous transmettons en jouant à des générations jeunes qui reçoivent le théâtre d'une certaine façon et le transmettront eux-mêmes à d'autres générations. Et ça se transmet. C'est comme ça que la tradition passe.
Oui, mais il y a quelque chose quand même chez Sarah Bernhardt sur un autre plan. C'est cette petite fille. Nous l'avons entendu au début, cette petite bretonne quasiment orpheline qui tout d'un coup est obligée de gagner sa
drôle
vie.
Drôle de bretonne quand même. Drôle de bretonne.
Oui, mais enfin, l'enfant c'était bretonne.
Ah oui, pardon, l'enfant, excuse-moi.
Pas elle. Mais, bien sûr. Mais qui part finalement de rien et qui, je pense, arrive quand même à ce qui est probablement, enfin à mes yeux, moi qui ne suis pas comédien, le triomphe. Pourquoi ? Elle a son propre théâtre, donc sa propre troupe, et elle a son propre répertoire. Elle a ses auteurs. Enfin, elle tient son écurie de bout en bout. Est-ce que ce n'est pas le rêve, finalement, secret, caché, de tout comédien ?
Eh bien, je vais vous dire, tout comédien à un certain moment de sa vie, a pu rêver d'avoir un théâtre et d'y jouer le répertoire, d'y jouer. C'est tellement... Je pense qu'à l'heure actuelle, plus beaucoup de comédiens rêvent d'avoir un théâtre. Je crois que ça devient si difficile, si compliqué, si... qu'en définitive, je pense qu'un acteur qui prendrait un théâtre, à ce moment-là, ne devrait plus jouer.
Mais elle faisait les deux, parce qu'à
cette époque-là, le théâtre...
Non, mais Claude-Riche, il ne faut quand même pas penser non plus qu'elle est rentrée au théâtre Sarah Bernard, et puis que ça roulait comme ça a marché comme sur des roulettes.
Non, je suis certain.
C'était la corderette, n'est-ce pas? Elle avait des problèmes d'argent, elle avait des problèmes, des difficultés financières énormes.
On connaît tous les directeurs du Lin et les autres qui ont eu tellement de... de difficultés. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, être directeur de théâtre est un apostolat. Il n'est plus... À une certaine époque, on était directeur de théâtre, on espérait gagner sa vie. Oui. Et je crois que maintenant, pas un seul directeur ne peut imaginer, à part un ou deux qui jouent un certain répertoire, peuvent imaginer gagner leur vie dans le théâtre. Je pense que c'est encore...
Quand ils ne la perdent pas, c'est déjà pas mal.
Qui est déjà pas mal. Il y a un directeur de théâtre qui arrive... D'abord, il n'y a plus de directeur de théâtre, presque plus. Il y a des associations de producteurs qui montent des spectacles. Parce que sans ça, ils ne peuvent pas. Vous savez, on perd avec une seule pièce les bénéfices de 2-3 succès. Alors comme il y a plus d'un succès que de succès, vous voyez où ça mène.
On ne peut plus se permettre d'avoir un succès à partir de...
Non, ça devient trop difficile. Et puis, il y a... c'est vrai, le théâtre a subi des crises. Bon, je veux pas, c'est pas le sujet de la... des crises difficiles et des crises où on n'a même plus su exactement ce qu'était le théâtre, si c'était... quelle était la forme qu'allait prendre le théâtre. Alors maintenant... le spectateur a un petit peu pataugé, et les auteurs et les acteurs aussi. Et je pense que le théâtre gagnera en fin de compte, mais...
C'est toujours à recommencer.
C'est toujours un renouvellement perpétuel.
À chaque génération.
En tout cas, Sarah Bernard, elle avait commencé, et vous l'avez rappelé, Gilbert Sicot, elle a eu en main quand même un théâtre à moitié, deux théâtres entièrement, plus le passage à la Comédie Française. Elle a suscité des vocations théâtrales indéniable, je pense surtout aux auteurs. Elle a quand même permis à ces auteurs d'accéder à la gloire. Ce qu'il y a d'important dans ses mémoires, justement, et dans la lecture de ses mémoires, c'est pour ça que nous les avons relus ensemble, c'est tout simplement parce qu'il fallait craindre que le monstre sacré ne vienne à bout de la femme qu'elle a été. Alors, je voudrais qu'on termine cette émission sur une page que j'aime beaucoup, enfin, parce qu'elle a assisté. Je ne pense pas que c'était d'ailleurs une femme de spectacle. Elle a assisté à 4 exécutions capitales, notamment à celle de l'anarchiste Vaillant. Et dans ces pages-là, alors je pense que c'est vraiment non plus le monstre sacré qui parle, mais vraiment la femme.
J'ai vu 4 exécutions, une à Londres et une en Espagne, 2 à Paris. À Londres, c'est la pendaison. Et cela me semble plus hideux, plus répugnant, plus sournois qu'aucune autre mort. C'était un homme d'une 30aine d'années, la figure mâle et volontaire. Je l'ai vu une seconde, il a haussé les épaules en me regardant et son œil était plein de dédain pour ma curiosité. À cette heure-là, je sentais que les pensées de cet homme étaient bien supérieures aux miennes, et le condamné me semblait plus grand que ceux qui étaient là. Peut-être parce qu'il était plus près que nous tous du grand mystère. Il me sembla le voir sourire au moment où on lui couvrit le visage du capuchon. Et je m'enfuis, très bouleversée. À Madrid, je vis un homme garrotté. Et la barbarie de ce supplice me laissa épouvanté pendant plusieurs semaines. On disait qu'il avait tué sa mère, mais aucune preuve n'avait été réellement relevée contre ce malheureux. Et il s'écria, au moment où on le tenait assis avant de lui mettre le garrot, « Ma mère, je viens te rejoindre et tu vas dire devant moi qu'ils en ont menti. » Ces mots, prononcés d'une voix vibrante en espagnol, me furent traduits par un attaché à l'ambassade d'Angleterre avec qui j'étais venu voir ce hideux spectacle. Le malheureux homme cria cela d'une voix si sincère, si déchirante, qu'il était impossible qu'il ne fût pas innocent. C'était du reste l'avis de tous ceux qui étaient avec moi. Les deux autres exécutions auxquelles j'assistais eurent lieu à Paris, place de la Roquette. L'une était l'exécution d'un jeune étudiant en médecine, je crois, qui, aidé d'un camarade, avait tué une vieille marchande de journaux. C'était un crime odieux, stupide. Mais cet homme était plus fou que coupable. Il était d'une intelligence supérieure et avait passé ses examens avant l'âge. Il avait trop travaillé. Il avait le cerveau dérangé. Il fallait le mettre au vert, le soigner comme un malade, le guérir et le rendre à la science. C'était un être supérieur. Je le vois encore, pâle, le regard perdu dans l'infini. Ses yeux étaient si tristes à ce malheureux enfant. Oui, je sais bien, il avait égorgé une pauvre vieille femme sans défense, c'est odieux. Mais il avait 23 ans. Le cerveau détraqué par l'étude, une ambition démesurée. Et l'habitude de découper des bras, des jambes, de dépecer des cadavres de femmes, d'hommes et d'enfants. Tout cela n'excuse pas l'action abominable de cet homme, mais tout avait pu contribuer à déséquilibrer un sens moral peut-être très ébranlé par l'étude, la misère ou l'atavisme. Eh bien, je trouve qu'on a commis un crime de lèse-humanité en éteignant à tout jamais cet intellectuel qui, revenu à la raison, aurait pu rendre des services à la science et à l'humanité. La dernière exécution à laquelle j'assistais fut celle de Vaillant, l'anarchiste. C'était un homme énergique et doux, aux idées très avancées, mais pas beaucoup plus avancées que ceux qui, depuis, montèrent au pouvoir. Il me demandait très souvent des places pour mon théâtre, qui était alors la Renaissance, étant trop pauvre pour se donner le luxe des arts. Ah, la pauvreté, quelle triste conseillère! Et qu'il faudrait être doux à ceux qui souffrent de la misère. Un jour, Vaillant vint me voir dans ma loge. Je jouais Lorenzaccio. Ah, me dit-il, ce Florentin était un anarchiste comme moi. Mais il a tué le tyran et non la tyrannie. Ce n'est pas ainsi que moi je procéderai. Quelques jours après, il jetait une bombe dans un endroit public, la Chambre des députés. Le pauvre fut moins habile que le Florentin qu'il semblait mépriser, car il ne tua personne et ne fit de tort réel qu'à son parti. J'avais dit qu'on me prévint du jour de son exécution. Et le soir au théâtre, un ami vint me dire que l'exécution serait pour le lendemain lundi à 7h du matin. Je partis après le théâtre et me rendis rue Merlin, au coin de la rue de la Roquette. Les rues étaient encore très animées car c'était le dimanche gras. On chantait, on riait, on dansait un peu partout. J'attendis toute la nuit. Je n'avais pu obtenir d'aller dans la prison. Je restais assise au balcon du premier étage que j'avais loué. La nuit glaciale et brumeuse m'enveloppait de sa tristesse. Je ne sentais pas le froid car mon sang courait rapide dans mes veines. Les heures poussaient lentement les heures qui sonnaient dans le lointain. L'heure est morte, vive l'heure. Et j'entendais un bruit vague, étouffé de pas, de chuchotements, de bois qui craque sourdement. Je ne me rendis compte de ce qu'étaient ces bruits étranges et mystérieux que lorsque l'aube me permit d'apercevoir l'échafaud dressé. Un homme vint éteindre les réverbères qui éclairaient la petite place de la Roquette. Un ciel anémique étendit sa pâle lumière au-dessus de nous. La foule s'était peu à peu amassée, mais restait en groupe compact. Les rues étaient barrées. De temps en temps, un homme indifférent et pressé écartait la foule, présentait une carte à un officier de paix et disparaissait sous le porche de la prison. C'était un journaliste. J'en comptais plus de 10. Puis, tout à coup, les gardes de Paris, doublés pour la circonstance, car on craignait un coup de main des anarchistes, se rangèrent le long du triste piédestal. Sur un signal, les sabres furent mis au clair et la porte de la prison s'ouvrit. Vaillant parut, pâle, énergique et brave. Il cria d'une voix mâle et assurée « Vive l'anarchie !» Pas un cri ne répondit au sien. Il fut saisi, renversé sur la planche. Le couperet tomba avec un bruit ouaté. Le corps bascula. En une seconde, l'échafaud fut démoli, la place balayée, les rues débarrées. Et la foule se rua sur la place, regardant par terre, cherchant une goutte de sang introuvable, humant le nez en l'air, l'odeur du drame qui venait de se dérouler. Des femmes, des enfants, des hommes âgés, tout cela grouillait sur cette petite place où venait d'expirer un homme dans la plus angoissante des agonies. Un homme qui s'était fait l'apôtre de cette populace. Un homme qui réclamait pour cette gente grouillante toutes les libertés, tous les privilèges, tous les droits. Voilé, méconnaissable, je m'étais au bras d'un ami mêlé à la foule et j'étais écœuré, désespéré. Pas un mot de reconnaissance pour cet homme. Pas un murmure de vengeance. Pas une révolte. J'avais envie de crier, mes tas de brutes, baisez donc les pierres que le sang de ce pauvre fou a rougi à cause de vous, pour vous, croyant en vous. Mais je fus devancé par un voyou qui cria, demandez, demandez les derniers moments de vaillant, demandez, demandez les détails, demandez, demandez. Ah, pauvre vaillant. Son corps décapité roulait vers Clamart. Et la foule, pour laquelle il avait pleuré, crié, expiré, s'égrenait lentement, nonchalante et ennuyée. Pauvre vaillant. Il avait cependant de folles mais généreuses idées.
C'était Relecture, une émission d'Hubert Juin. Aujourd'hui, Sarah Bernard, avec la participation de Claude Rich et Gilbert Sigaud. Texte lu par Catherine Sellers. Chef opérateur du son, Yvette Hubot. Collaboration technique, Jean-Richard Dufour. Assistante, Cécile Tranvan. Réalisation, Anne Lemaître.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 20 mars 1981. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.